Critique. Chaque mois sur La Grenouille, un auteur ou une auteure vient débroussailler en votre compagnie un champ de la pensée critique. Critique.
Un champ qui résonne avec l'actualité marseillaise.
Une émission proposée et présentée par Nicolas Heringer et Emmanuel Riondet.
À écouter maintenant dans tous vos états critiques.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille. Ce mois-ci, nous allons parler Europe, Union Européenne et Euro. Une discussion que nous allons mener avec notre invité du jour, Cédric Durand. Au sommaire de l'émission, également, une chronique sur l'actualité éditoriale des pensées critiques. Au sommaire toujours, un rapide aperçu de la lutte des habitants de la cité Félix Pia à Saint-Mauron. Et enfin, du son qui nous vient tout droit du Canada avec Silverman Zion. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors l'Europe, en sortir ou pas?
Bonjour Nicolas. Que faut-il faire de l'Europe? Cette question accompagne le processus d'intégration dès ses débuts en 1951. Mais elle se pose en ce début du XXIe siècle avec une acuité renouvelée. Depuis la fin des années 2000, l'Union européenne est secouée par une crise sans précédent. Crise économique, bien entendu, mais aussi sociale, politique, morale. Où vont aujourd'hui les 27 États de l'Union? Où vont ces quelques 450 millions d'habitants? Faut-il se résoudre aux politiques d'austérité, aux déficits démocratiques, aux murs de Schengen? Doit-on œuvrer à une réorientation du processus ou faut-il s'en défaire définitivement? Mais dans quelles conditions et avec quelles alternatives? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Critique Cédric Durand, économiste, maître de conférences à l'Université Paris 13. Vous avez récemment dirigé un essai collectif intitulé « En finir avec l'Europe » paru aux éditions La Fabrique. Vous y défendez la thèse selon laquelle il est urgent de suspendre la question européenne. Et nous allons essayer aujourd'hui de voir avec vous et nos auditeurs un peu plus de quoi il retourne. Bonjour Cédric Durand.
Bonjour à vous.
Critique.
L'entretien.
Bonjour donc. Les élections européennes auront lieu à la fin du mois de mai prochain, le 25 en France exactement. L'enjeu sera notamment le futur de la construction européenne. À gauche, les positions sont diverses. Certains souhaitent avancer vers plus de fédéralisme. D'autres veulent redonner de l'importance aux États et ils sont même prêts, pour cela, à revenir sur certains traités. Vous, Cédric Durand, vous avez une position différente, peut-être plus radicale, suspendre la question européenne, que vous jugez secondaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, peut-être commencer par l'urgence. Pourquoi suspendre la question européenne? Et on discutera ensuite de l'Europe elle-même. C'est que l'urgence, c'est d'abord la crise. La crise économique, sociale, la crise politique liées aux réponses qui ont été apportées, des réponses qui ont permis aux plus riches de s'en sortir sans aucun dégât majeur et qui, par contre, ont plongé les populations dans une phase extrêmement aiguë de chômage, de précarité et de recul des droits sociaux et des services publics. Donc, le point de départ, c'est celui-ci, c'est à ça qu'il faut répondre. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de trouver une solution aux difficultés de l'Europe. L'enjeu, c'est de répondre aux besoins des populations. Et la thèse défendue dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de solution européenne simple à ça. Que les solutions que l'on peut articuler politiquement pour répondre à ces difficultés économiques, sociales absolument criantes, majeures, urgentes, ne peuvent pas être résolues directement à l'échelon européen. C'est peut-être ça le point de départ de l'ouvrage.
On a tous grandi, pour une bonne partie des Français actuels, avec cette construction européenne, avec ce processus de construction européenne, et avec des idées qui nous ont été assénées tout au long des dernières décennies. Et parmi celles-là, l'idée forte, importante et souvent répétée que la construction européenne, c'était la paix franco-allemande et la promesse de plus revoir le continent européen se déchirer après les conflits du XXe siècle. Vous nous dites, vous, dans votre ouvrage, qu'en réalité, le projet européen est piloté depuis les États-Unis.
Oui, l'origine de l'Union européenne, c'est la guerre froide. C'est l'affrontement bloc contre bloc entre les États-Unis et l'Union soviétique et la volonté du gouvernement américain d'imposer un ordre en Europe qui permette de contenir la menace représentée à l'époque non seulement par l'Union soviétique, mais par un mouvement ouvrier extrêmement puissant. Et cette racine du projet européen s'appuie sur le fait que la sécurité en Europe, si vous voulez, la paix en Europe, n'est pas garantie par la construction européenne elle-même, mais par la présence américaine en Europe. L'Allemagne, aujourd'hui, est de fait un protectorat militaire américain. Et donc, l'organisation militaire européenne est d'abord et avant tout une organisation de l'Empire américain, dans le sens où c'est la principale puissance mondiale qui organise les rapports de force. Donc, effectivement, il y a un peu le mythe d'une fraternisation des peuples au lendemain de la guerre qui leur aurait permis d'envisager un avenir commun. ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Si on fait une sociologie de la construction de l'Union européenne, on voit que ce sont une petite fraction des élites, très fortement liées à la grande puissance américaine, qui organisent ce projet. Et non pas un projet populaire, non pas même un projet directement qui émènerait directement des bourgeoisies européennes. Il y a toute une série de secteurs des bourgeoisies qui étaient liés aux États nationaux et qui étaient hostiles à la construction européenne au départ. Mais c'est bel et bien un mode d'intégration du continent dans le monde d'après-guerre dominé par les États-Unis et face à l'Union soviétique.
Et vous dites aussi que les fondations basées aux États-Unis ont joué un rôle là-dedans d'appui, voire d'initiateur.
Oui, si on regarde dans le détail, Jean Monnet travaillait très étroitement avec le gouvernement américain. Les premières propositions formulées pour la construction européenne avec la perspective du marché commun, donc même avant que la CECA, c'est-à-dire la CECA, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui se met en place au début des années 50, mais dès 49, le responsable américain du plan Marshall en Europe dégage la perspective d'un grand marché unifié européen comme un moyen de développer l'économie européenne en gagnant des économies d'échelle et basé sur le principe de libre-échange et également envisage la possibilité théorique dès cette époque-là d'une monnaie commune. Donc les initiateurs, le projet lui-même n'est pas véritablement... il y a eu précédemment dans les années 20 des discussions sur un projet européen, mais lorsque ça prend corps véritablement politiquement, c'est très directement lié à la présence américaine sur le continent.
Mais si on prend par exemple les déclarations justement de Schuman au moment de la création de la CECA en 1950 ou de Jean Monnet, on voit qu'il y a quelque chose qui ressort du dirigisme. L'idée, c'est de fusionner les intérêts des différentes puissances en Europe. Enfin, on est quand même assez loin de ce que vous décrivez.
L'argument, effectivement, est un argument modernisateur. L'argument modernisateur est de dire que dès lors qu'il y aura une plus grande échelle de marché, il y aura une plus grande efficacité productive parce que les coûts unitaires de production seront plus faibles. Donc il y a effectivement cet argument, je ne le nie absolument pas. Simplement, mon point, c'est dans les débats, par exemple, avec Karine Berger du Parti Socialiste, qui était contre le traité constitutionnel en 2005, et puis là, qui a appelé à ratifier le TSCG, sa tribune dans Le Monde était axée sur « l'Europe, c'est la paix ». Bon, on peut discuter de tout très calmement, mais l'Europe, ce n'est pas la paix, en tout cas, ce n'est pas un processus de fraternisation des peuples. Ce n'est pas vrai historiquement.
Parmi les autres idées fortes, enfin, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais parmi les autres idées fortes qui sont liées à celle de la construction européenne, c'est celle de la croissance économique. Or, on voit bien depuis 2008 que la croissance européenne, elle n'est pas au rendez-vous. La prospérité de l'Europe, c'est quoi? C'est un mensonge originel?
Non, alors, il faut... peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail du projet européen du début jusqu'à aujourd'hui, ce qui en fait la continuité. Il ne faut pas dire qu'une autre Europe n'aurait pas pu émerger au fil du temps. Elle n'a pas émergé, il y a une cohérence entre le projet initial et ce qui est aujourd'hui, et ce projet initial, c'est effectivement une Europe de l'économie. Une Europe de l'économie, une Europe de la croissance. Et cette Europe de la croissance, c'est pas la croissance en général, de manière abstraite, mais c'est la croissance vue dans le cadre d'une pensée libérale, ordolibérale précisément, c'est-à-dire une pensée qui pense que la concurrence permet de générer le maximum de richesses et permet donc de prendre en charge l'ensemble des besoins sociaux. Et à cet égard, je voudrais vous citer une phrase de Michel Foucault qui renvoie au concept d'économie sociale de marché, un concept extrêmement important qui est élaboré par les ordolibéraux dans les années 40, qui est repris par la CDU dans les années 50, donc la droite allemande, repris par le SPD dans les années 70, la gauche allemande, et finalement le Parti socialiste français sous le terme d'économie sociale et écologique de marché dans les années 2000. Ce concept d'économie sociale de marché, nous dit Foucault, c'est la chose suivante. La forme fondamentale de la politique sociale, ça ne doit pas être quelque chose qui viendrait contrebattre la politique économique et la compenser. La politique sociale ne devrait pas être d'autant plus généreuse que la croissance économique est plus grande. C'est la croissance économique qui, à elle seule, devrait permettre à tous les individus d'atteindre un niveau de revenu qui leur permettrait ces assurances individuelles, cet accès à la propriété privée, cette capitalisation individuelle ou familiale avec laquelle ils pourraient éponger les risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de la société doit être organisé autour des gains de la croissance. Et des gains de la croissance qui, selon cette école de pensée, découlent de la concurrence. Et ce principe de concurrence comme principe fondamental, on le retrouve dans les traités aujourd'hui, mais on le retrouve dès le traité de Rome en 56. Donc là, il y a un fil extrêmement long qui explique d'une certaine façon aussi le sens des réponses à la crise. Aujourd'hui, il faut faire fonctionner le marché de manière efficace. C'est de cette manière-là qu'il y aura davantage de richesses et que les individus pourront être prospères et assumer eux-mêmes leurs besoins.
Mais du coup, quel est le problème réellement? Parce qu'on parle là depuis le début de l'émission de l'Europe, mais en fait c'est plutôt de l'Union européenne dont il est question. Est-ce que le problème c'est l'Union européenne et ses institutions, est-ce que c'est uniquement l'euro? Parce qu'on voit que dans ce que vous critiquez, ça peut aussi s'appliquer aux États-Unis. Enfin, ce qui est en cause, finalement, c'est le néolibéralisme, voire le capitalisme, mais pas l'Union européenne ou l'euro spécifiquement.
Alors, le point qui est important, et je pense qu'on va développer, c'est que le fait de passer d'un niveau de souveraineté à un autre n'est pas en soi progressiste ou réactionnaire. C'est pas quelque chose d'absolu. Dans les mouvements nationalistes indépendantistes du tiers-monde étaient des mouvements nationalistes qui visaient à casser des empires et finalement avoir une forme de repli de la souveraineté. Ils étaient progressistes parce qu'ils permettaient à un certain nombre de couches sociales finalement d'approprier le pouvoir. Wallerstein dit ce point de manière très importante. Le déplacement de souveraineté n'est pas neutre d'un point de vue de classe. Et la construction européenne n'est pas neutre non plus d'un point de vue de classe. Et finalement, elle vise à mettre à distance l'influence des populations vis-à-vis des décisions dans le règne économique, vis-à-vis des décisions économiques. C'est quelque chose qu'on voit dès le départ, avec justement ce principe de concurrence qui vient, si vous voulez, entraver les décisions politiques. Mais c'est quelque chose qu'on voit émerger de manière extrêmement brutale depuis la crise, avec ce qu'on a appelé avec Razmig Kecheyan un césarisme bureaucratique.
C'est l'une des contributions dans l'ouvrage dont on parle.
Effectivement. C'est l'idée qu'en réponse à la crise et au mécontentement qu'elle suscite, on met à distance l'influence des populations à travers un certain nombre de règles économiques qu'elles ne peuvent pas influer. C'est quoi ? C'est le TSCG, le traité qui vient d'être adopté, qui empêche, qui contraint très fortement la politique économique et qui impose au gouvernement de les faire valider, a priori, avant même consultation des parlements, par la Commission et par leurs pairs. C'est la Banque Centrale Européenne qui joue un rôle de plus en plus important, qui est vraiment montée très fortement en puissance au cours de cette crise. Et ce césarisme bureaucratique est non seulement généralement quelque chose qui vient déposséder les populations de leur souveraineté, mais qui a aussi une dimension extrêmement perverse et qui est, je crois, mal perçue. C'est que l'Europe, aujourd'hui, est en train de se transformer en structure semi-coloniale. Entre un centre qui a la capacité d'influer sur les décisions et une périphérie qui ne l'a absolument pas. Aujourd'hui, dans les pays de la périphérie, en Espagne, mais plus encore dans les pays sous programme comme la Grèce ou le Portugal, les gouvernements n'ont absolument pas un mot à dire sur la conduite de la politique économique. C'est-à-dire qu'ils ont à rendre des comptes devant des populations, ils sont élus par celles-ci, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, in fine, ce sont des dirigeants non élus qui prennent ces décisions, la Troïka et les gouvernements du centre. La Troïka, c'est le FMI, la Commission et la Banque Centrale Européenne.
Ce qui nous amène directement à la question démocratique.
Oui, mais à laquelle vous venez de répondre un peu, quand même. C'est-à-dire qu'on a, le sentiment, et je pense que c'est par ailleurs un sentiment qui est assez partagé dans les opinions publiques, c'est que la faiblesse de démocratique de l'Union européenne n'aurait d'égal que sa puissance bureaucratique. C'est un peu ce que vous venez de dire.
C'est exactement ça. Alors, les politistes ont un concept en anglais pour parler de ça. Ils parlent de mismatch entre politics et policy. C'est-à-dire une inadéquation entre là où a lieu le débat politique et là où est faite la politique. Le débat politique, il a lieu essentiellement au niveau national. Alors on peut le regretter, mais il n'y a aujourd'hui pas de débat politique européen qui soit véritablement auquel les populations participent largement.
Donc c'est politics ?
Ça, c'est politics. S'il y a un journal politics au niveau européen, c'est le Financial Times. Il est eurosceptique et puis c'est le journal de la finance. Bon. Donc il n'y a pas de politics au niveau européen. Par contre, la politique, elle, la politique économique, est faite au niveau européen.
Donc ça, ce sont les policies.
Voilà, exactement. Et du coup, cette inadéquation entre les deux pose un problème de légitimité démocratique absolument crucial. Donc ce mismatch, cette inadéquation, elle est très largement comprise. Mais le débat qui se pose aujourd'hui, en particulier à gauche, est de savoir s'il faut résoudre ce mismatch en allant de l'avant dans l'intégration européenne, ou si au contraire, aller en avant dans l'intégration européenne, c'est finalement donner plus de pouvoir aux multinationales et à la finance qui aujourd'hui dirige l'Union européenne. On pourra peut-être discuter pourquoi. Donc là, je pense qu'on se situe au cœur du débat à gauche.
Alors on va discuter de tout ça dans la suite de l'émission. Merci Cédric Durand. Mais avant la suite, on va tout de suite écouter un extrait du nouvel album de The Silver Mount Zion Memorial Orchestra, un groupe donc canadien. Leur album sort le 21 janvier sur le label Constellation et le titre s'appelle Ça ne s'invente pas Austerity Blues.
Critique, l'entretien.
Aujourd'hui dans Critique, on parle donc Europe avec Cédric Durand. Et Cédric Durand, vous proposez, on l'a déjà entendu, de suspendre la question européenne. Concrètement, ça prend la forme d'un retour de l'État, voire du national. Sur ces positions, en tout cas en France, le parti qui se positionne le plus volontairement là-dessus, c'est le Front National. Or, c'est évidemment pas votre bord politique. Qu'est-ce qui vous distingue, du coup, du Front National ou des souverainistes, y compris à gauche, issus des réseaux du Jean-Pierre Chevènement et autres?
Bon, le Front National est un parti très largement raciste, anti-immigré. C'est un parti qui a été très longtemps très libéral. Hein. Faut pas oublier, par exemple, que lors du décès de Margaret Thatcher, il y a quelques mois, le FN a envoyé un mot de condoléances. Donc, le FN n'a jamais été du côté des classes populaires. Hein. Le FN, ça incarne un projet réactionnaire et in fine qui basculera du côté des classes dominantes. Et je pense qu'on peut même se poser la question, si on voit l'évolution du discours de Marine Le Pen, jusqu'à quel point son anti-européisme est conséquent. Hein. De quelle manière elle ne pourrait pas s'arranger, comme l'ont fait d'autres partis d'extrême droite au niveau européen, d'une Europe extrêmement libérale. Ce ne serait pas, à mon sens, une évolution qui serait particulièrement choquante. Non. Le point clé, c'est savoir si la souveraineté nationale est quelque chose dont on peut se réclamer. À mon sens, non, pas comme principe. La souveraineté nationale est un mythe réactionnaire. Alors, un mythe est réactionnaire. Un mythe d'abord parce qu'on sait qu'on vit à l'époque de la mondialisation. Hein, les produits sont fabriqués dans des chaînes globales de marchandises extrêmement fragmentées. Les entreprises sont très largement des transnationales. Donc, on est dans un monde extrêmement interdépendant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est réactionnaire parce que ça suppose qu'au sein de la nation, on pourrait avoir de meilleurs compromis sociaux que qu'ailleurs, hein, que d'une certaine façon, notre bonne vieille lutte des classes, pour reprendre le terme de Todd, serait quelque chose qui, en soi, serait quelque chose de plus positif. Non, on n'a pas... moi, je suis du côté des... J'essaie de me situer du côté des opprimés, je suis du côté du mouvement ouvrier historique, des mouvements sociaux. Donc, ce sont des mouvements qui sont fondamentalement transnationaux, et on est plus proche d'un ouvrier polonais ou d'un ouvrier chinois en termes de projet social que d'un banquier français. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Et suspendre la question européenne, c'est pas renoncer à l'internationalisme.
Donc, pas de fétichisation de la nation. Je pense que la gauche internationaliste n'a rien à gagner à être collé à l'internationalisme bourgeois. Dans les circuits de la gauche, beaucoup disent qu'il y a un problème avec l'Union européenne, c'est que c'est bien parce que c'est internationaliste, mais que c'est pas bien parce que c'est néolibéral. On peut pas dissocier les deux. On combat l'Europe parce qu'elle est néolibérale, point, pas parce qu'elle est internationaliste. On combat cette Europe parce qu'elle est néolibérale, et dès lors, on se saisit des instruments que l'on peut pour la combattre. À mon sens, aujourd'hui, ne pas dénoncer l'Europe alors qu'elle matraque les peuples avec une telle violence et qu'elle est autoritaire, antidémocratique, est évidemment conduit à la désespérance des populations. Parce qu'on ne tient pas compte de ce marteau. Donc je pense que, voilà, il faut dire ces choses-là qui sont simples. On n'a pas à être à la remorque du positionnement du Front National, d'autant plus que la gauche radicale a, depuis une vingtaine d'années, depuis Maastricht, accumulé les arguments pour expliquer pourquoi on allait à la catastrophe avec cette Europe néolibérale. Et nous y sommes pleinement. Le processus a été croissant, hein, avec de plus en plus de dégâts. Et aujourd'hui, nous avons construit tous ces arguments-là. Il ne faut pas aujourd'hui les abandonner. Il faut les amener à leur conclusion logique. L'Europe néolibérale s'est incarnée en tant que projet. On n'a pas réussi à la stopper. Il faut la défaire.
Mais ceux qui mettent en avant la dimension internationaliste de l'Europe, ils disent aussi que l'Europe, elle a permis d'avoir une monnaie commune. Et aujourd'hui, au quotidien, au concret, nous, Européens, on apprécie de pouvoir aller à Madrid et à Rome avec la même monnaie. Elle a aussi permis des avancées, par exemple, la Cour de justice européenne. C'est pas uniquement... on est fondé à mettre en avant quelques points positifs qu'a permis la construction européenne, quand même.
On peut le faire, et il faudrait le faire effectivement dans le détail, mais Erasmus, c'est bien pour les étudiants. On peut apprécier, pour les quelques 5 à 10% d'Européens qui en profitent, la possibilité de circuler à l'échelle européenne, mais avec une seule monnaie. Cet avantage-là a été payé au prix très fort.
C'est ça l'internationalisme bourgeois dont vous parlez ?
Ouais, je pense. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de... J'apprécie, je trouve ça formidable de faciliter la circulation des populations. Faut pas oublier évidemment que c'est l'Europe forteresse également, hein. Ce sont des milliers de sans-papiers qui meurent chaque année dans la Méditerranée. Mais donc pas de fétichisme de ce côté-là. Si on veut parler de l'euro, hein, il y a certes la facilité que ça donne, mais le coût que cela a pour les populations, c'est un coût en termes de chômage et d'appauvrissement qui est aujourd'hui considérable. Et un des mythes qui s'est effondré avec cette crise, c'est l'idée qu'il y allait y avoir une convergence, une unification européenne, qu'on était tous européens au même titre grâce à cette monnaie unique. Au contraire, ce qu'on a vu, c'est que cette monnaie, elle a accru les inégalités. Elle a accru la polarisation entre un centre hyper productif, qui bénéficie d'une monnaie sous-évaluée, et une périphérie qui a vu son industrie, sa base de développement être sapée parce qu'elle est moins compétitive et que relativement à son niveau de compétitivité, la monnaie est surévaluée. Hein. Et ces déséquilibres de mode de développement extrêmement fort liés à l'euro, aujourd'hui, bloquent complètement le futur des pays de la périphérie. Ils voient leurs jeunes partir, ils voient leur base productive s'échapper et ils sont sous la pression, même plus que sous la pression, ils sont sous le contrôle effectif aujourd'hui des créanciers du Nord avec des privatisations massives qui de fait sont appropriées par les pays du Nord, une forme de colonisation économique qui va de pair. Donc le prix de la monnaie unique, c'est une polarisation des inégalités extrêmement forte.
Alors qu'est-ce qu'on fait de l'euro ?
Alors qu'est-ce qu'on fait de l'euro, plutôt qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? On avance un peu vers la suite de la discussion, c'est-à-dire les propositions que je fais. Les propositions que je fais sont de trois ordres. Pour répondre à la crise, la première chose, c'est de répondre au chômage. Il faut mettre en place une politique de financement public de l'emploi en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait un emploi, soit dans la fonction publique, soit des emplois qui soient aidés dans le privé ou dans le secteur associatif. C'est tout à fait possible de faire ça. Le coût du traitement du chômage est extrêmement important. Le manque à gagner lié l'immense gaspillage que représente toute cette force de travail hors du marché du travail, également une source de richesse extrêmement importante. Donc financièrement, la boucle peut être faite. Deuxième proposition.
Donc l'État embauche les chômeurs.
L'État finance l'emploi des chômeurs. Deuxième élément, deuxième proposition, c'est l'audit et l'annulation d'une grande partie de la dette publique. Aujourd'hui, on est passé d'une souveraineté des peuples à une souveraineté des marchés. Pourquoi les pays de la périphérie? Pourquoi la France? Pourquoi François Hollande, dans le film qui est sorti sur sa première année de sa présidence, lorsqu'on le voit se féliciter, c'est sur les bonnes réactions des marchés financiers? Pourquoi? Parce que les États dépendent pour leur fonctionnement des emprunts qu'ils peuvent faire vis-à-vis des marchés financiers. Et dès lors que les marchés financiers ne sont pas satisfaits par les politiques mises en œuvre, les taux d'intérêt montent et les États se retrouvent coincés. On assiste donc de fait à la mise en place d'une souveraineté des marchés. Il faut couper cette souveraineté des marchés. Pour couper cette souveraineté des marchés, il faut faire un audit de la dette et annuler la dette et trouver d'autres financements publics. Et puis, donc, ce seraient peut-être les deux principales propositions.
Et troisième.
Et la troisième proposition que je souhaiterais avancer, c'est une proposition qui vise à permettre de sortir de la croissance. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de la croissance. Sortir de la croissance, c'est cohérent avec cette politique d'emploi public en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il faut davantage être tourné vers une économie qui vise à la reproduction, la satisfaction de nos besoins écologiques et sociaux, que vers une économie qui vise à l'augmentation des richesses.
Mais alors, concrètement, là, on voit bien ce que vous proposez. Ça se fait où? C'est-à-dire qu'un État seul pourrait le faire? La France seule pourrait le faire?
Alors,
avec quelle monnaie?
La question principale est de savoir quelles sont les conditions de mise en place d'une telle politique. Les conditions de mise en place d'une telle politique sont, d'une part, de rompre avec la liberté de circulation des capitaux et, d'autre part, de rompre avec le libre-échange. Et ces deux principes, bien plus que les avancées de la Cour de justice européenne, ou bien plus que le côté pratique de l'euro, sont le cœur de l'Union européenne. Parce que c'est ça le cœur du fonctionnement d'une économie de libre marché. La liberté de circulation des capitaux, il faut savoir que dans les traités, c'est non seulement la liberté de circulation des capitaux en Europe, mais vis-à-vis du monde entier. Ça veut dire que ça laisse toute latitude aux détenteurs de capitaux pour ne pas payer leurs impôts, très largement pour les exporter. Ça leur laisse également toute latitude pour sanctionner les gouvernements dès lors qu'ils font une politique qui est contraire à leurs intérêts en quittant les pays. Donc il faut suspendre cette liberté de circulation des capitaux. La question du libre-échange, pourquoi elle est importante? Si vous avez une politique d'emploi en dernier ressort, si vous distribuez donc des salaires qui correspondent à ces emplois, vous allez avoir une poussée, une tendance à l'augmentation des prix, une tendance à un surcroît de demande. Vos prix vont augmenter, vous serez donc moins compétitif à l'export et par conséquent, vous allez vous retrouver avec des problèmes de financement de votre balance extérieure, vous serez obligé de mettre en place une politique d'austérité. Si vous voulez mener une politique sociale alternative, vous êtes obligé de rompre avec ces deux libertés. Si on pouvait le faire au niveau européen, directement au niveau européen, pourquoi pas? Ça pourrait être une très bonne chose. Sauf que c'est le contraire même des principes sur lesquels sont basées l'Union européenne. À partir de ce moment-là, plutôt que de faire croire qu'on va discuter et se mettre d'accord avec Mario Draghi ou avec les gouvernements de droite qui sont majoritaires dans les pays européens, il est plus honnête, à mon sens, d'assumer le fait que pour mener ces politiques-là, on rompra avec l'Union européenne et qu'on invitera évidemment l'ensemble des peuples qui voudraient le faire à rejoindre ce projet-là et à voir d'autres bases d'intégration. Peut-être, si vous me laissez une minute, je pourrais expliquer le côté... Il y a un effet de seuil lié à l'intégration internationale dès lors qu'on est sur une base néolibérale. C'est Hayek qui a montré ça dès les années 40. Hayek, c'est un grand penseur libéral, un des plus grands penseurs libéraux du XXe siècle. Il disait la chose suivante. Dès lors que le principe de concurrence est acté et que la propriété privée est défendue, tout pas en avant vers le fédéralisme ira nécessairement vers moins de politique industrielle et vers moins de politique sociale. Pourquoi? Parce que si on fait une politique sociale ou une politique industrielle, ça avantage tel ou tel pays. C'est difficile de se mettre d'accord. Il y en a qui doivent faire des concessions. Alors que si vous êtes sur une politique de libre marché, supprimer des choses, c'est quelque chose qui est plus simple à faire. Donc, si on veut avoir une politique d'intégration internationale, ce que moi je souhaite dépasser les frontières nationales, je ne suis pas attaché à l'espace national en tant que tel, il faut le faire en partant d'autres bases. Ce n'est pas vrai qu'on peut amender un projet d'essence néolibérale, qu'on va réussir à construire une majorité européenne. Il faut déconstruire ça pour pouvoir reconstruire un projet émancipateur et internationaliste.
Alors là, on pourrait vous faire un reproche qui a deux versants. Le premier serait de dire que, au fond, ce que vous dites, ça revient un peu à essentialiser l'Europe. Vous y avez déjà répondu un peu en filigrane en première partie, mais en gros, voilà, c'est pas parce que l'Europe a des pères fondateurs qui ne sont pas ceux que l'on croyait ou que les États-Unis ont joué le rôle qu'ils ont joué dans la création de l'Union européenne que le verre est dans le fruit et qu'on ne peut rien en tirer. Donc on pourrait finalement quand même réorienter la construction européenne. Et l'autre versant de ce reproche qui fonctionne comme un unique reproche, c'est un peu aussi, au fond, vous raisonnez toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que le problème, si la France ou un État seul fait ce que vous prenez, le risque, c'est qu'en fait, il y a une compétition entre États, des dévaluations successives, des dévaluations compétitives qui amènent une sorte de statu quo, mais par en bas, une sorte d'effondrement du jeu de cartes.
Sur le premier reproche, il n'y a pas eu de réorientation vers la gauche de l'Europe, à aucun moment. Il y a eu des stops dans la libéralisation. Le traité de 1956 prévoyait une politique extrêmement libérale qui n'a pas été mise en œuvre parce que les États s'y sont opposés. Mais il n'y a pas eu une orientation de gauche, on pourrait dire, au niveau européen. À minima, il y a eu des petits bouts de politique industrielle, politique agricole notamment, qui n'étaient pas strictement libérales. À la fin des années 90, lorsqu'il y avait une majorité de gouvernement de gauche en Europe, l'Europe sociale était prévue. On n'a pas vu l'Europe sociale. Hein. Il faut se souvenir que Lionel Jospin, à l'époque, avait dit qu'il ne signerait pas le traité d'Amsterdam, qu'il a signé. Et cette fois-ci, François Hollande s'était engagé à ne pas signer un traité, il l'a signé. Ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à ce que j'appellerais le syndrome Canfin. J'ai débattu avec Pascal Canfin, qui est un ministre du gouvernement vert, il y a quelques mois.
Ministre du co-développement.
Exactement. Et il me disait la chose suivante. Écoutez, moi, je suis d'accord. Hein, tout ce que vous dites sur l'Europe, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je me suis opposé à Barroso. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a un t-shirt « Stop Barroso » que je porte. Vraiment, je suis un opposant radical à Barroso. Je suis très fervent d'une Europe sociale et écologique. Il n'y a pas de débat entre nous là-dessus. Mais le problème, c'est que moi, je suis démocrate. Et que du coup, il n'y a pas une majorité de gauche en Europe. Donc du coup, je fais ce que je peux avec ce qu'il y a. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que Pascal Canfin, au nom de l'Europe, choisit d'appliquer la politique de Barroso, de la droite européenne. Il applique la politique définie au niveau de la Commission européenne, mais au nom de l'Europe, parce qu'il est attaché à cette idée européenne, il refuse de désobéir aux instructions de Barroso, il accepte de mettre en place cette politique. Et il me semble que ce dilemme pour la gauche entre l'Europe et ses convictions, dès lors qu'elle est en position de gouverner, est un dilemme qui est absolument crucial et qui doit être tranché en amont d'un projet qui vise à prendre le pouvoir. À mon avis, le sens de ma proposition, c'est de dire, si un gouvernement de gauche conséquent arrive au pouvoir, il ne laissera pas le projet européen entraver son propre projet et ses propres engagements sociaux.
Alors, on va creuser cela, et notamment cette proposition que vous formulez de la manière suivante, désobéir à l'Europe dans la dernière partie de l'émission. Mais avant cela, on voudrait vous faire écouter un petit reportage sur la lutte des habitants de la cité Félix Pia qui se sont mobilisés à la mi-janvier pour être embauchés sur l'un des chantiers d'Euroméditerranée, un chantier qui avait lieu juste sous leur fenêtre. Et il faut que vous mettiez votre casque, c'est dingue durant.
Critique marseillaise en mouvement.
Depuis hier, on bloque en fait un chantier qui est juste derrière nous, qui a débuté depuis 6 mois. Et la revendication est toute simple, c'est qu'on veut que nos jeunes de la cité qui sont qualifiés aient un emploi dans ce chantier. Voilà, tout simplement.
Le problème, c'est qu'il a du travail dans notre quartier. Et ce travail-là, il a des autres personnes qui travaillent et nous, on ne bénéficie rien. On cherche du travail toujours. Et le problème, c'est que ce chantier, quand ils ont commencé, on a envoyé les CV. Et personne de ce quartier qui est pris. Ils ont pris d'autres personnes.
Il y a eu des propositions, il y a eu des CV qui ont été déposés. On n'a employé aucun jeune de la cité.
On est prêt à travailler, mais le travail, on ne le voit pas. Il est là devant les yeux, mais on n'a pas le droit de travailler.
Ce qu'on veut, c'est que nos jeunes soient employés. On veut que les jeunes de la cité Félix Piat, qui ont les compétences et les qualifications, soient employés. Après, qui y a dedans, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne suis pas rentrée à l'intérieur. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est que nos jeunes soient employés. Ici, on a un taux de 75% de chômage. Et on a peut-être la moitié de la population qui est entre 18 et 30 ans. Ils nous ont envoyé un huissier pour constater et nous faire dégager. Et hier, la police.
D'accord.
Hier, il y a eu 6 voitures de police. Tout se passe dans le calme, tout se passe pacifiquement. Les jeunes qu'on a en face de nous sont des jeunes respectueux. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est à rencontrer le promoteur ou voir le maître d'œuvre pour pouvoir négocier des emplois avec lui. C'est un truc citoyen, la politique là-dedans, elle ne rentre pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une rencontre et pouvoir discuter avec ceux qui ont le pouvoir, tout simplement. Il y a eu d'autres actions qui ont été menées comme ça dans d'autres quartiers, puisqu'on a quand même un réseau, nous, au niveau du CQPM. Ça a fonctionné, ça a marché. Il y a eu des emplois derrière. Donc pourquoi pas nous ? Et puis le truc qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette action-là, elle va être menée de partout. Parce que tout le monde se dit, mais on est en train de se soulever, quoi. La population, elle en a marre aujourd'hui. Et les gens, ils en ont marre. Donc aujourd'hui, c'est Félix Piat, peut-être demain, ce sera ailleurs. Mais on est solidaires. Ils lâcheront pas, quoi. Ils resteront là jusqu'à qu'il y ait quelque chose. Hein. Après, ça peut se passer autrement aussi, mais bon, c'est pas le but, quoi.
Critique marseillaise en mouvement.
Alors le CQPM dont il est question dans le petit reportage qu'on vient d'écouter, c'est le collectif des quartiers populaires de Marseille, dont on reparlera très certainement dans Critique. Et c'est durant cette lutte, a priori victorieuse, puisqu'elle a débouché sur l'embauche de 10 jeunes de la cité sur le chantier, après 2 jours seulement de blocage. Est-ce qu'elle s'inscrit dans ce que vous appelez la désobéissance à l'Europe? Est-ce que c'est l'une des formes concrètes de cette désobéissance? Puisque la législation européenne impose d'embaucher des travailleurs d'où qu'ils viennent, en l'occurrence des travailleurs détachés des pays d'Europe de l'Est.
Oui, ben pourquoi pas? Oui, c'est effectivement de manière très concrète s'opposer au dumping social imposé par les règles européennes. Alors, il faut peut-être revenir sur ce qu'est cette circulaire sur les travailleurs détachés en Europe. C'est une circulaire qui permet à une entreprise d'embaucher n'importe quel travailleur européen avec le salaire minimum du pays, s'il y a un salaire minimum, mais sans les cotisations sociales. Donc pour les employeurs français, ça a un avantage évident, ça permet d'économiser très largement les cotisations sociales. Qui plus est, ces salariés, il est extrêmement difficile de connaître leurs conditions exactes d'embauche. Pourquoi ? Parce que les inspecteurs du travail ne peuvent pas directement les contrôler. La plupart du temps, ce sont des sous-traitants qui sont liés à une entreprise donc dans un autre pays européen. Si les inspecteurs du travail font des constats, alors ils peuvent faire des constats en urgence sur les conditions de sécurité, mais s'ils font des constats sur les heures payées, le fait que les heures soient toutes payées, quel est le montant réel du paiement de ces horaires, etc., ils doivent eux-mêmes en référer à l'administration du travail du ministère du Travail français, qui, elle, à son tour, doit contacter l'administration du travail du pays d'origine de l'entreprise, qui, elle, doit faire une enquête. Autant dire que ça n'aboutit jamais. Donc il y a toute une zone de non-droit du travail qui existe pour ces travailleurs détachés, qui est très favorable aux entreprises, mais qui exerce une pression de dumping fiscal. De dumping social. Ça renvoie à quoi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure? C'est que le mismatch, il n'est pas seulement entre politiques et politises, entre le débat politique et les politiques menées. Il est aussi que les politiques économiques, monétaires et règles budgétaires sont unifiées au niveau européen. Les politiques sociales ne le sont absolument pas. Il n'y a pas les instruments d'une politique sociale européenne. L'État européen n'existe pas véritablement. Et c'est aussi un des points de débat avec les différents courants de la gauche européenne, c'est qu'on ne peut pas se battre à l'échelon européen de la même façon qu'on se bat au niveau d'un État. Si on a une vision un peu comme... Je me réfère à Poulanza, c'est une vision de l'État qui est une vision contradictoire, où on peut mener une guerre de position, où il peut y avoir certains points d'appui. Il n'y a rien de tel au niveau européen. Le niveau européen est un niveau extrêmement étroit, avec très peu de technocrates, qui eux-mêmes ont beaucoup de mal à faire les lois, donc les lois sont très largement écrites directement par les lobbies. Et l'appareil européen, l'appareil technocratique européen, est lui-même extrêmement faible et n'a pas la puissance pour mener une politique effective. Les politiques effectives sont laissées aux États, mais sont fragmentées. Et ce que montre l'exemple que vous venez dont vous venez de donner l'illustration avec cette lutte dans un quartier marseillais, c'est cet effet-là. Il n'y a pas un État unifié européen, la politique sociale n'est pas unifiée au niveau européen, le capital peut en profiter, les travailleurs se trouvent mis en concurrence directement les uns avec les autres, sans aucune médiation sociale.
Vous nous avez dit tout à l'heure, le type de réponse que vous proposez à la crise européenne, donc qui consiste à suspendre la question européenne, on ne va pas revenir là-dessus, et je reprends vos termes, suspendre la question européenne et la subordonner aux enjeux immédiats, stopper le jeu de massacre social, redonner de la substance au processus démocratique et initier un changement de mode développement, comment ça peut se traduire? Quelle forme de désobéissance, je reviens à la désobéissance et au petit reportage qu'on vient d'écouter sur Félix Piat, au niveau de la société civile?
Pour les mouvements sociaux, à mon avis, ça ne change pas énormément de choses. C'est-à-dire que les luttes au niveau européen contre les politiques d'austérité, c'est très bien si on peut les coordonner au niveau européen. Moi-même, j'ai participé longtemps au marché européen contre le chômage, au forum social européen. Oui. J'étais encore en Grèce pour une rencontre syndicale et du mouvement social au mois de juin l'année dernière. Bon, donc je pense que c'est extrêmement important d'échanger entre ces différents mouvements et si possible de se coordonner pour les résistances. Ça, c'est quand même une position malgré tout assez générale, parce qu'il faut prendre acte de l'échec de ce processus des forums sociaux européens. Pourquoi il y a eu un tel échec des forums sociaux européens? Alors, une partie est sans doute liée au fait que c'est difficile d'échanger, d'être solidaire quand on est dans différentes langues, bon, différents pays, etc. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de peut-être plus fondamental. C'est que l'Europe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'Europe unifiée par la monnaie unique, n'est pas une économie unifiée. Ce n'est pas un seul régime d'accumulation. Ce n'est pas la même dynamique économique dans les différents pays en même temps. Pour faire simple, on peut dire que dans les années 2000, il y a eu 3 types de lutte des classes en Europe. 3 types qui n'avaient absolument rien à voir. Vous aviez en Europe de l'Est, 10 ans après 10 ans de libéralisme sauvage lié aux politiques de transition, une immense armée de réserve qui a été intégrée dans les circuits du capitalisme mondial par le biais des chaînes globales de marchandises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on a eu, si vous voulez, une prolétarisation qui a permis des gains de productivité extrêmement importants, sans aucun acquis sociaux, mais où il y a eu quand même une progression des salaires. En Allemagne, à l'inverse, vous avez une grande défaite du prolétariat allemand. Ça veut dire quoi ? Ce sont les lois, les différentes lois Hartz qui ont été prises au début des années 2000 par le chancelier Schröder.
Chancelier socialiste,
voilà,
SPD,
voilà,
social-démocrate.
Auquel a rendu hommage il y a peu de temps François Hollande. Ces lois se sont traduites par une stagnation des salaires, mais de manière peut-être encore plus grave, par une grande division au sein même du prolétariat allemand entre un prolétariat relativement protégé dans les grandes industries et dans les services, une chute des standards sociaux tout à fait nette. En préparant le livre, j'ai trouvé des cas de femmes de ménage en Europe de l'Est payées à 50 centimes de l'heure. Donc, parce qu'il n'y a pas de salaire minimum. Donc on a vraiment une grande défaite du prolétariat allemand qui s'est traduite par une stagnation des salaires. Et puis au sud, vous avez une autre histoire. Vous avez eu certes ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait que la base productive a été très largement cassée, mais vous avez eu un phénomène de bulle alimenté par la financiarisation où on a eu une bulle immobilière, il y a eu un boom de la construction, il y a eu dans certains cas une augmentation forte du crédit à la consommation au ménage, il y a eu parfois, dans une moindre mesure, mais c'est le cas en Grèce un petit peu, et dans une moindre mesure au Portugal, une hausse de la dette publique. Donc dans ces pays-là, il y a une amélioration du niveau de vie de la population liée à la financiarisation. Ces trois histoires sont complètement différentes. C'est extrêmement difficile d'unifier les mouvements sociaux à partir d'expériences concrètes alors que les histoires sont complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire qu'il y a des raisons structurelles pour lesquelles il n'y a pas d'émergence d'un mouvement social européen unifié.
En même temps, on voit qu'il y a des formes de mobilisation ou de lutte qui s'étendent un peu, ou comme, qui se répandent comme une traînée de poudre à travers l'Europe. C'est l'exemple des indignés, mais au-delà des indignés, de l'occupation des places publiques, qui rebondit aussi en Allemagne avec ce qu'on appelle Blockupy, qui a eu des déclinaisons en Angleterre, en Grèce. Il y a eu aussi, au-delà des luttes contre l'austérité, enfin dans le cadre des luttes contre l'austérité, des occupations de places très liées aux indignés, donc il y a quand même des choses qui se passent. Et à l'inverse, on peut aussi constater que dans d'autres pays, comme en France par exemple, il n'y a pas vraiment de mobilisation d'ampleur nationale.
C'est tout à fait juste, mais le mouvement des places, le mouvement Occupy, n'est pas un mouvement strictement européen. C'est-à-dire que les périodes des mouvements sociaux sont des périodes internationales. Et comme 1848, le printemps des peuples, comme la vague révolutionnaire en Europe après la révolution bolchevique à la fin de la Première Guerre mondiale, comme 68. Donc, bien entendu qu'il faut s'appuyer sur ces vagues internationales, qu'on peut nourrir les différentes expériences. On peut penser, pour le mouvement des places, la place Taksim, qui pose la question du droit à la ville et les mobilisations à Rio,
montre aussi qu'il y a des...
Istanbul et les mobilisations à Rio montrent qu'autour du droit à la ville, il y a aussi un nouveau type de revendication qui émerge. Donc, bien entendu, les mouvements sociaux et même les dynamiques politiques sont internationales. Et c'est extrêmement précieux pour nous. C'est notre camp, c'est aussi la façon dont on peut se nourrir les uns les autres, nourrir l'espoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être synchronisé et d'avoir un moment commun européen pour avancer. À mon avis, c'est ça peut-être le point de débat qu'il y a en termes de stratégie des mouvements sociaux. Ça veut dire que chacun doit avancer au maximum, qu'il faut se nourrir les uns les autres, qu'il faut essayer de dépasser les cadres nationaux en tant que projet, mais en tant que perspective concrète, il faut gagner des batailles, parce que c'est aussi le meilleur moyen d'aider nos camarades dans les autres pays. Et il ne faut pas attendre directement une victoire européenne. Il ne faut pas se fixer ça comme horizon, à mon avis, c'est paralysant.
Mais donc le pari, ou enfin peut-être plus qu'un pari, la stratégie qui est la vôtre, c'est de dire on s'aménagera plus de marge de manœuvre au niveau de l'État que l'on en a au niveau européen. Mais on peut le mettre en doute, c'est-à-dire qu'en France par exemple, est-ce que véritablement des grands corps tels que l'Inspection Générale des Finances vont laisser un gouvernement mener une politique économique de rupture ?
Ma stratégie n'est pas de dire qu'au niveau national on va gagner des marges de manœuvre. Ma stratégie, elle consiste à dire la chose suivante: il faut défaire le néolibéralisme, et la première défaite qu'on peut faire, c'est imposer une défaite au projet européen, parce qu'il est l'incarnation que l'on vit de ce projet néolibéral. Rompre avec l'Europe aujourd'hui, c'est casser le grand projet des firmes multinationales et de la finance. C'est sur la base de cette rupture-là que l'on va pouvoir avancer vers un nouvel horizon d'émancipation. C'est d'une certaine façon un préalable. Ce n'est absolument pas une garantie. Bien sûr, toutes les limites que vous évoquez, aussi bien liées aux contraintes économiques dans un seul espace national que aux contraintes intrinsèques à la bureaucratie française, etc., sont absolument justes. Seulement, défaire un projet des bourgeoisies, des grandes multinationales et de la finance est d'une certaine façon un verrou à faire sauter qui permet d'aller de l'avant. C'est un préalable.
Il y a eu une contribution dans Vacarme, la revue la récente, qui est intitulée « Politiser la politique européenne ».
À retrouver sur vacarme.org.
Voilà, merci Nicolas, mais je n'ai pas le nom des auteurs en tête par contre.
C'est un texte
grave.
Collectif.
Voilà, c'est un texte collectif. Ouais. Investir les questions européennes avec la même exigence politique que celle à laquelle nous prétendons aux autres échelons. Ça ne me semble pas très éloigné de ce que vous venez de dire. Simplement, eux, ils disent qu'il faut le faire en restant au sein de l'Union européenne. Me semble-t-il.
À mon avis, ce que le désaccord avec les auteurs de cet édito que j'ai lu et qui est intéressant est le suivant. C'est qu'ils ne voient pas que les différentes échelles de souveraineté ne sont pas neutres d'un point de vue des rapports sociaux. Ils ne constatent pas que l'espace national, l'État national tel qu'il s'est construit, est un État qui est le fruit des grandes vagues de mobilisation ouvrière de l'après-guerre et que l'Europe est le lieu par lequel on défait ce projet-là. Même d'une certaine façon que les dominants dans l'espace national instrumentalisent le cadre international, le cadre européen, mais ce n'est pas le seul, hein, l'OMC joue également ce type de rôle-là, instrumentalisent ces cadres internationaux pour mener à bien leur propre projet de classe contre leur classe locale. C'est-à-dire, cette absence de neutralité, ce n'est pas indifférent de se battre à tel ou tel niveau. Si on se bat principalement au niveau européen, on va avoir déjà beaucoup de mal à le faire pour les raisons structurelles qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais par ailleurs, on se bat sur un terrain qui est complètement hégémonisé par ces classes. Au niveau de l'espace national, évidemment, elles sont dominantes. Mais elles le sont moins. Il y a la sécurité sociale, il y a le droit du travail, il y a une administration, tout un ensemble de fonctionnaires qui sont ancrés à gauche historiquement, qui sont liés par exemple au secteur de l'éducation, au secteur des impôts. Les choses sont plus ambiguës. Ce n'est pas le cas au niveau européen. Et à mon avis, le point, l'angle mort hein, de ces auteurs, c'est d'avoir une vision uniforme des différents espaces de souveraineté. Ils ne voient pas les différents rapports de force qui se cristallisent dans ces différentes institutions.
Alors, on avait ouvert cette émission en parlant des élections européennes. On peut peut-être aller vers sa fin en y revenant. Vous avez signé, donc avec Razmik Kechiyan, un texte sur regard.fr qui dit que c'est l'enjeu de la campagne à gauche pour les européennes. C'est précisément de se saisir de cette question-là et de savoir quelles sont les forces qui acceptent de faire l'idée de suspendre la campagne européenne.
De suspendre pas la campagne européenne,
pardon,
mais
l'Union européenne. Ouais, tout à fait.
Ouais. Non, effectivement, on est dans une période qui est dramatique à bien des égards. Hein. Tout le monde en a conscience. Les taux de chômage en Europe, il faut peut-être le rappeler, hein, c'est 12% de taux de chômage en général. Mais c'est 50 millions de personnes qui sont sous-employées, hein, d'après les chiffres même de Eurostat. C'est plus de 50% de jeunes au chômage en Espagne, en Grèce. Donc c'est une situation qui est vraiment absolument dramatique. C'est une situation également dans laquelle on a observé, selon la stratégie du choc hein, décrite par Naomi Klein, une offensive massive des classes dominantes. Hein. C'est non seulement les politiques d'austérité qui attaquent les services publics, mais c'est également partout des attaques sur le droit du travail. En France, c'était par exemple la question de l'ANI. Et plus généralement, c'est une mobilisation complète des ressources publiques au service du capital privé. Hein. Donc cette situation est particulièrement grave, mais en même temps, c'est une situation qui, on le sent, est fragile. C'est une situation qui, on le sent, est fragile. Et il y a une formule que j'aime bien du juriste Alain Supiot qui parle de stade Brejnev du néolibéralisme. Pourquoi stade Brejnev du néolibéralisme? Alors Brejnev, c'était un dirigeant soviétique dans les années 70. C'est l'époque où bureaucratie soviétique était à la fois complètement dominante. Il n'y avait pas du tout d'espace de débat. Il y avait dans ces pays-là une vision, c'était un glacis. Hein, il n'y avait pas du tout d'espace de débat. Mais déjà, plus personne n'y croyait. Parce que le projet était en échec. Et bien, d'une certaine façon, on vit ça aujourd'hui. Le néolibéralisme est extrêmement brutal, violent, mais il est en échec. Il est incapable de délivrer ce qu'il promet, la promesse de l'économie sociale de marché que je vous ai décrite par Foucault. Aujourd'hui, il n'y a pas de prospérité. Ce dont se félicite aujourd'hui Mario Draghi dans les médias ou la Commission européenne, c'est d'avoir stabilisé la crise, d'avoir stabilisé la finance. Et il se contente de taux de chômage qui aujourd'hui ne reflue absolument pas. Hein. Le chômage va même continuer à progresser en France.
C'est ce que vous appelez un peu la gestion de la stagnation, je crois.
C'est exactement ça, la gestion de la stagnation. Et la stagnation, ça n'a rien à voir avec la fin de la croissance. La stagnation, c'est la fin de la légitimité du néolibéralisme parce qu'ils ne peuvent pas prétendre que grâce à la libéralisation des marchés, ils vont améliorer le sort de chacun. Donc déposséder les populations sans leur proposer de perspective est, à mon sens, une impasse pour ces classes dominantes-là. Et nous, il faut être fort par rapport à ça. Il faut être fort, c'est-à-dire être capable de reconstruire un scénario et d'être capable de nommer précisément nos adversaires et d'assumer les conséquences d'une politique alternative.
Cédric Durand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans cette émission.
Merci à vous.
Pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient prolonger, on peut rappeler le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé, En finir avec l'Europe, qui est paru aux éditions La Fabrique. On peut également mentionner un livre des économistes atterrés auquel vous appartenez, toujours ?
Toujours.
Toujours. Changer l'Europe, publié par Les Liens qui Libèrent. Et puis on a mentionné plusieurs auteurs, vous avez mentionné plusieurs auteurs. Wallerstein, Poulounsas, on a parlé de Naomi Klein, de Vacarme, de Regard. On va essayer de mettre des liens ou des références en ligne sur le site de l'émission. Au revoir.
Au revoir.
Les pensées critiques, ce sont bien sûr des combats intellectuels et politiques, ce dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est aussi une actualité éditoriale sur laquelle on va se pencher tout de suite avec la chronique sur l'actualité des pensées critiques.
Lecture critique, un peu d'actualité éditoriale.
Alors Emmanuel, qu'est-ce que tu as lu ce mois-ci ? Qu'est-ce que tu nous conseilles de lire ?
Alors ce mois-ci, j'ai lu un bouquin qui vient d'être réédité aux éditions La Découverte, qui s'appelle « La géographie, ça sert, virgule, d'abord, virgule, à faire la guerre ». Et c'est un livre de Yves Lacoste. Alors peut-être que beaucoup des auditeurs, ce titre dit quelque chose parce qu'il ne vient pas exactement de sortir. Il s'agit en fait d'une réédition, une édition augmentée, comme on dit, de ce livre qui est donc paru initialement en 1976 chez Maspero, dans la petite collection Maspero, qui a été republié en 2012 avec une préface réactualisée et qui ressort donc début 2014. Ce livre s'est devenu un classique et il le mérite. Il signe rien moins que l'entrée du concept de géopolitique dans l'espace public. La géopolitique, c'est cette discipline qui consiste à penser, à comprendre et à analyser les interactions entre les territoires, leurs caractéristiques géographiques, géologiques, leurs ressources et les politiques qui y sont menées. C'est ce qui permet par exemple de comprendre que si le Moyen-Orient est au cœur de toutes les tensions mondiales, ce n'est pas parce que les Juifs et les musulmans se détestent, c'est avant tout parce qu'il y a du pétrole dans le sous-sol, et que si la région des Grands Lacs d'Afrique australe se déchire sans interruption depuis le milieu des années 90, ce ne sont pas des affrontements ethniques venus du ciel, c'est d'abord parce que l'ex-Zaïre est un scandale géologique dont le sous-sol regorge de ressources convoitées. Dans notre siècle, cette façon d'aborder les relations internationales est devenue la norme et on ne peut que s'en féliciter. Mais quand Yves Lacoste a sorti son livre en 1976, donc, il a été un des premiers à dire que la géographie était autre chose que quelques heures de cours hebdomadaires rébarbatifs à tracer des fleuves sur une carte vierge et qu'il ne fallait pas non plus la laisser dans les mains des états-majors militaires. Qu'elle était et devait devenir un formidable biais pour mieux comprendre le monde, une discipline à la croisée de beaucoup d'autres, multiforme, et qu'il fallait que chacun puisse s'en emparer. Yves Lacoste est aussi à l'origine d'une revue que tu connais, Nicolas, qui s'appelle Hérodote, revue trimestrielle, qui donc tous les trois mois propose des dossiers thématiques dans lesquels des pays sont analysés par des spécialistes, des géopolitologues. Voilà, une revue que je vous recommande, elle est souvent de bonne facture, comme ce bouquin qui vient donc de ressortir à La Découverte et qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre » de Yves Lacoste, c'est aux éditions La Découverte et ça coûte 11 euros. Voilà, pour moi, ce mois-ci. Et toi, Nico, t'as lu quoi ?
Eh ben moi, je vais conseiller j'ai lu un ouvrage qui est paru à la fin de l'année 2013, ça s'appelle « Avant de disparaître, chronique PSA Aulnay » aux éditions Plein Jour, et c'est de Sylvain Patieu. Et Sylvain Patieu s'est rendu à Aulnay à de nombreuses reprises, en fait, pour écouter et pour faire parler les ouvriers de cette usine, donc de PSA, usine dont la fermeture a été annoncée, tu t'en souviens peut-être, au cours de l'été 2012, dans un vaste plan social, donc 8000 emplois à supprimer, dont 3000 pour cette seule usine. C'est la première fermeture d'usine automobile depuis celle de Renault-Billancourt en 1989, autrement dit, c'est un séisme social. Et donc Sylvain Patieu s'est rendu là-bas et a tissé des liens de confiance très forts avec les ouvriers et en sort un ouvrage magnifique qui s'ouvre, ou presque, sur le témoignage de Roland. Roland qui lui dit « J'en ai tellement raconté sur PSA, avec moi, il est déjà écrit ton livre, prends ton stylo, écoute. » Et Sylvain Patieu a écouté et effectivement il en ressort quelque chose qui est à la fois touchant, émouvant, révoltant, déprimant et quand même parfois aussi avec un peu d'espoir. Il mêle des témoignages d'ouvriers, de l'usine, à des réflexions et des analyses sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur la désindustrialisation. C'est un livre pour faire vivre la mémoire d'une histoire chaque jour un peu plus révolue, mangée, happée par le capitalisme, et que les grandes entreprises vouent au silence. Ainsi, lorsque la dernière C3, Citroën, est sortie des chaînes de cette usine à l'automne 2013, donc quelques mois avant la fermeture de cette usine qui est prévue pour l'année 2014, la direction a communiqué sur le fait que PSA tournait une page, quelque chose de positif, en somme, alors que 3000 salariés, 3000 ouvriers, était laissé sur le carreau. C'est un livre qui s'inscrit dans la lignée d'autres ouvrages qui font parler des ouvriers ou des ouvrières. On peut penser à Ouvrières de Franck Magloire, à Déou de François Bon. Mais je crois que l'originalité de cet ouvrage, c'est qu'il raconte des histoires d'hommes et de femmes, de rêves, de doutes, de luttes et de larmes, mais aussi un propos plus analytique sur l'histoire ouvrière, sur l'histoire de ses luttes, sur l'histoire de ses larmes. À propos de larmes, on peut citer Allison dans l'ouvrage qui dit « Tu sais, je pleure, c'est les nerfs, c'est ma soupape. Si je pleure pas, je crois que j'explose. Je crache pas sur PSA, grâce à eux j'ai rencontré mon mari, j'ai une maison. Mais pendant des années, on nous a pressés, comme des merdes. On nous a mal parlé. Maintenant, mon fils, il a 5 ans et demi, il voit sa mère pleurer, il se demande, il comprend pas, ça me fait mal. Et comme le dit Christophe, toujours dans cet ouvrage, il y en aura d'autres, on est les premiers, il y aura les prochains. D'autres luttes et d'autres larmes, et on espère qu'après les larmes, il y aura d'autres luttes, et après ces luttes, des sourires, voire des rires.
Critique, critique.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve dans un mois, une émission proposée et animée par Emmanuel Rurondet et Nicolas Héringer, à la technique Sébastien, assistance à la réalisation Emmanuel Morera, critique c'est tous les mois sur 88.8 à Marseille et sur radiogrenouille.com dans le reste du monde et à tout moment. Au revoir.
Au revoir.